Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous. Alors juste un mot pour dire que l'épisode d'aujourd'hui avec Vincent Touret de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, va avoir un format un peu particulier parce que il était donc consacré à la pensée stratégique russe et que on y parle pas mal de la guerre en Ukraine, notamment vers la fin de l'émission. Or, on l'a enregistré mercredi dernier, donc le 7 septembre, et évidemment depuis il y a eu une percée ukrainienne spectaculaire dans l'est de l'Ukraine, et à l'est de Kharkov notamment, alors qu'on avait tendance à surveiller plutôt la région de Kherson au sud. Et simplement on s'est dit que ce serait bizarre de ne pas en parler du tout, pour autant l'émission qui va suivre est évidemment complètement valide, toujours peut-être plus pertinente que jamais d'ailleurs, parce qu'on essayait de décrire l'approche stratégique russe, ce qui aide probablement à analyser et à comprendre leurs intentions, mais aussi leurs réactions possibles face à ce qui est en train de se passer. Mais donc, le fait est qu'il y a eu cette percée massive, suivie par une retraite russe qui libère peut-être une petite dizaine de milliers de kilomètres carrés, qu'il faut mentionner. Alors je vais dire tout de suite que autant on peut probablement s'en réjouir, autant je crois qu'il ne faut peut-être pas exagérer sa portée, et que ceux qui voient un retrait massif ou un effondrement complet de l'armée russe vont sans doute un peu vite en besogne, à moins d'un effet d'entraînement massif et spectaculaire. Tout le dispositif russe va probablement se réarticuler un peu plus à l'est, derrière la rivière Roskil, et les Ukrainiens vont très probablement aussi devoir faire une pause pour réarticuler eux-mêmes leurs moyens, notamment logistiques, ce qu'on l'a dit souvent, mais du point de vue des moyens et de la logistique, qui est particulièrement centrale depuis le début de cette guerre, dans l'absolu c'est toujours plus facile d'être sur la défensive et de reculer que d'être à l'offensive et de devoir étendre son dispositif, parce que, évidemment, avancer trop vite, c'est aussi prendre le risque de s'étendre trop et même de s'exposer à des contre-attaques. Donc ça, c'est le constat vraiment très basique à l'heure qu'il est, donc le lundi 12 septembre, mais ça appelle peut-être un peu plus de commentaires, et j'ai donc rappelé Vincent Touret, cette fois à distance, pour qu'il en dise quelques mots supplémentaires avant de passer à l'épisode proprement dit. Donc bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, au-delà du constat très factuel que je viens de faire, comment est-ce que vous analysez en fait ce revers assez massif, pour l'instant, même si c'est dur de commenter en temps réel, pour l'armée russe ?
Ok, alors, plusieurs points qui vont peut-être arriver pêle-mêle, mais j'espère que je vais rester assez clair. D'abord, ce qu'on peut noter, c'est quand même un énorme problème de renseignement du côté des forces russes. C'est un problème qui est plus ou moins structurel. Une expression qu'on utilisait souvent pour caractériser l'armée russe était celle d'un ours qui était difficile, qui était dangereux à très courte portée parce qu'il vous voyait, mais à plus longue portée, en fait, il n'avait pas les moyens de vous voir. Et ça, c'est quelque chose qui se répète au cours de la guerre. On voit qu'il n'y a pas assez de capteurs dans la profondeur. On voit même qu'à courte distance, des grandes lacunes en fait de l'armée, c'était l'absence de petits drones tactiques pour mieux observer les mouvements de l'adversaire. Mais là, ne pas avoir vu du coup une telle concentration de forces ukrainiennes sur une de leurs zones en fait les plus vulnérables, la zone par laquelle les Ukrainiens sont passés, c'est une zone qui était tenue par des troupes déjà trop ténues, pas assez d'hommes et puis pas de très bonne qualité. Et donc c'est une grande défaite du renseignement déjà pour la Russie, qui soulève encore une fois la rigidité ensuite de leur commandement la transmission des informations entre les échelons. Donc ça montre vraiment une machine grippée qui n'arrive pas à déceler, détecter en fait les intentions de son adversaire et à s'organiser en conséquence. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la qualité des troupes donc. C'est une surprise constamment renouvelée de voir que les troupes russes, donc qui font partie du district ouest, qui était censé être les meilleurs de l'armée russe, c'était censé être le point armé justement de la contre-offensive, hein, dans leur schéma de défense active. Les troupes du district ouest devaient, notamment avec la première armée de tanks, être les forces qui allaient repousser les forces de l'OTAN qui se seraient aventurées par exemple en Biélorussie. Ces troupes-là montrent depuis le début du conflit en fait une assez grande médiocrité dans leur coordination interarmes et notamment dans la manœuvre blindée. Là, par exemple, on a vu que c'est, je crois que c'est la 4e division de tanks de la garde, donc de la première armée de tanks, qui a perdu plusieurs compagnies donc de T-80. On voit des stocks de matériel qui sont complètement abandonnés, une certaine panique. Et donc, c'est le dernier élément. On peut quand même, à mon avis, parler sur ce front-là d'une véritable pulvérisation quand même du dispositif russe. Un retrait très rapide, peu d'engagement, ce qui a quand même le bénéfice pour eux d'avoir préservé, à mon avis, une bonne partie de leurs effectifs. Mais donc l'abandon de toutes les positions aménagées, du matériel, l'abandon surtout, ce qui va être très difficile pour eux, c'est le point logistique de Kupiansk. Là, pour réarticuler la logistique depuis Belgorod, à mon avis, ça va être très très compliqué pour eux.
Donc ça, on peut dire un peu, c'est un certain niveau. Enfin, pour analyser tout ça, il faut aussi beaucoup regarder les routes et les voies de chemin de fer. Et on peut dire que Kupiansk, enfin, c'est vraiment un nœud ferroviaire et logistique, et que du coup, ça permettait de faire le lien avec donc la base en territoire russe de Belgorod, plus au nord, d'alimenter un peu toute la ligne de front. Et là, si ce nœud ferroviaire est perdu, ça va être nettement plus difficile, parce qu'on peut aussi rappeler que la logistique russe passe essentiellement par des trains et que dès qu'ils ont besoin de camions, ça marche nettement moins bien.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que déjà, il y avait un passif historique. Les Russes préfèrent le rail, en fait, à tout moyen de transport pour ce qu'ils appellent des mobilités stratégiques. Le fait est combiné à ça, le fait qu'il y a un vrai manque, en fait, de le parc motorisé pour la logistique n'est pas du tout assez étoffé. Il est très hétéroclite. Ils ont eu énormément de mal à essayer de rationaliser ce parc par de nouveaux camions, mais ils n'ont jamais réussi. Et donc, l'un dans l'autre fait que, oui, ils ont une extrême dépendance au rail. Et donc, en fait, quand Kupiansk est tombé, et les Ukrainiens ont eu parfaitement raison de viser ce point-là, toute la base avancée, en fait, d'Izium, qui était censée être le point de départ de la grande offensive en phase 2, si on se rappelle bien, donc à partir de la fin mars, pour justement essayer d'encercler le Donbass et le faire tomber, toute cette grande phobe, cette base avancée en fait russe, elle est du coup tombée d'un seul coup, puisqu'elle était privée en fait de ses approvisionnements.
Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction éventuelle de la Russie? C'est-à-dire, on en parle un peu à la fin de l'épisode, mais il y a une question de, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le manuel russe de stratégie pour, quand on recule comme ça, alors je vais pas déflorer l'épisode, mais on peut dire que voilà, on met en avant vous nous expliquez les grands piliers en quelque sorte de la pensée stratégique russe. Donc si on applique à ça, voilà, quand il y a un revers comme ça, quand il y a une ligne de front qui est percée comme ça et la nécessité de reculer, voilà, qu'est-ce qui est prévu si tant est qu'il y ait une solution plus ou moins toute faite, puisque on le dit aussi plus loin dans l'épisode, mais il fonctionne beaucoup par solution et par prise de décision un peu automatisée, un peu standardisée, les Russes.
Le problème, c'est qu'à mon avis, on est arrivé là à un tel niveau de désorganisation de façon générale dans la guerre, mais là particulièrement avec cette pulvérisation, que on est dans le régime de l'expédient. Normalement, il devrait y avoir donc une défense en profondeur, l'organisation d'échelons ultérieurs pour justement couvrir la retraite des troupes russes avancées. Mais ce dispositif, à mon avis, il n'existe tout simplement pas. Ce qu'on sait, c'est que la Russie avait réussi à constituer récemment un troisième corps en fait de volontaires, qui était une innovation en fait par rapport à ses pratiques tout au long de la guerre. Jusqu'à maintenant, pour rajouter du matériel et des hommes, elle avait fait appel à des bataillons de volontaires, donc c'était des soldats avec des contrats de courte durée, mais ils étaient rajoutés plutôt organiquement, en fait directement dans les unités déjà engagées en Ukraine. Et le troisième corps est une unité, c'est ce qui peut se rassembler plus à une unité de réserve vraiment constituée de A à Z avec que des volontaires, qui avaient reçu d'ailleurs du matériel plutôt avancé. Et la grande question avant du coup cette offensive, c'était de savoir où est-ce que les Russes allaient engager ce troisième corps? Est-ce que ça allait être une sorte de division de forteresse pour tenir, par exemple, les fronts les plus passifs, les plus stables? Ou est-ce que ça allait être une force supplémentaire pour lancer des offensives? On peut penser donc que le troisième corps va essayer de renforcer tant qu'il peut la rivière hostile. Et au-delà de ça, la grande question quand même lancinante, c'est la question de la mobilisation générale. Le grand problème, en fait, le paradoxe, c'est que d'un côté, avec les pertes que les Russes subissent depuis le début de la guerre, il y a de moins en moins d'alternatives pour eux à la mobilisation générale. C'est le seul moyen vraiment réaliste pour pouvoir dégager en fait des ressources supplémentaires en hommes, en matériel, pour essayer de renverser le cours de cette guerre. Mais l'autre problème, c'est que il y a pas les moyens, il y a pas l'encadrement en fait pour vraiment l'organiser. C'est-à-dire que tout le système justement soviétique était basé sur l'idée d'une levée en masse où vous aviez plein de divisions qui étaient squelettes entre guillemets, vous aviez des officiers, les cadres, mais elles devaient être remplies qu'avec la mobilisation générale. Tout ça a disparu largement avec la réforme de 2010. Les Russes avaient préféré moderniser en surface, se concentrer sur les unités d'actifs, sur des unités professionnelles, pour justement avoir une masse d'hommes directement déployables à très bref délai. Et pour ça, ils avaient donc fait le sacrifice du système de levée en masse. Là, le problème, du coup, c'est que si à mobilisation générale, les Russes n'ont pas les instructeurs, n'ont pas les cadres, n'ont même pas, a priori, les infrastructures et les équipements pour pouvoir, du coup, former, armer les nouveaux arrivants. Et donc, la mobilisation générale devient absolument nécessaire, critique, s'ils veulent continuer leur effort de guerre. Mais, d'un autre côté, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la base matérielle pour vraiment qu'elle devienne effective et à court terme. Donc, ça va être un effort très, très difficile.
Bon, et enfin, peut-être pour clôturer ce constat, on a parlé de la faillite du renseignement, il faut peut-être dire un mot aussi de la faillite, enfin vous allez nous dire, parce que je peux préciser que vous êtes aussi spécialiste, disons, de l'intégration air-sol et de la manière dont les armées interagissent, et là, ce qui est apparu, et ce que beaucoup de gens ont relevé, c'est que pour arrêter une telle percée, on aurait pu s'attendre à ce que les VKS, donc les forces aériennes russes, contribuent à ça, et apparemment elles auraient été remarquablement absentes de ce qui s'est déroulé depuis 3-4 jours maintenant. Donc est-ce que vous avez peut-être une analyse des raisons à ça?
Alors, j'ai ce qu'on va appeler des soupçons en fait sur les raisons de cette inefficacité. L'armée de l'air russe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un assez bon cas d'ailleurs, vous avez vu la culture stratégique russe, du développement de moyens, de nouveaux moyens, donc ils ont, mais qui sont pas raccordés à une évolution de la doctrine, à une réforme de cette doctrine. C'est-à-dire que depuis 2010, les Russes avaient compris du coup estimaient que les feux dans la profondeur et notamment les feux de l'aviation, la suprématie aérienne, étaient vraiment maintenant devenus une condition sine qua non pour emporter un conflit armé. Et de façon cohérente, on l'oublie, mais l'allocation donc des investissements, des moyens du dernier plan d'armement qui couvrait la période de 2010 à 2020, le GPV 2020, allouait en fait à la marine et à l'aviation des investissements bien supérieurs à l'armée de terre. C'était l'armée de terre, la grande perdante de la réforme russe. Et donc vous avez une force aérienne russe qui, de façon capacitaire, s'est plutôt modernisée avec de nombreux nouveaux appareils, une augmentation des heures d'entraînement quand même, qui reste en dessous des heures d'entraînement qu'on peut retrouver dans les aviations OTAN, mais qui était quand même vraiment une remontée en puissance par rapport aux années 90. C'était vraiment, il y a eu une revalorisation capacitaire et du personnel. Mais cette revalorisation c'est pas accompagné d'une réforme en fait des missions des VKS et de comment on les intégrait dans le schéma général de la manœuvre et des opérations. On a toujours une vision de l'armée de l'air russe, les Russes ont toujours cette vision d'une force en fait supplétive presque, qui est subordonnée à la progression des éléments terrestres dans la bataille. Vous avez quelques missions, de, par exemple, de défense antiaérienne, ça, ils font très attention. Mais à part ça, les forces aériennes restent quand même dans un rôle qui est très subordonné à la manœuvre terrestre, avec très peu d'autonomie. Et donc ensuite, donc là, ça c'est le côté doctrine, on va passer du côté organisationnel, et donc on rentre donc, dans les raisons vraiment concrètes qui peuvent expliquer du coup l'inhibition des VKS. Vous avez déjà des forces aériennes qui sont complètement subordonnées au district militaire. Donc elles sont subordonnées en fait au commandant interarmes, qui est souvent issu de l'armée de terre. Donc déjà, là, vous avez une inhibition parce que vous n'avez pas la même perception de bah, des capacités, du rôle, des missions qu'en fait l'aviation peut faire. Et ensuite, du coup, ça crée un problème de coordination tactique. Puisque quand vous avez des armées russes de différents districts qui sont amenées à évoluer dans une même région, dans une même zone d'opération, elles évoluent donc chacune avec leur propre force aérienne, qui ne peut pas se coordonner sur le terrain entre elles, mais qui sont obligées d'en remonter chacune à leur hiérarchie et donc au district. Donc on voit toutes les lourdeurs déjà de coordination que ça peut créer. Et enfin, et ça c'est vraiment le niveau tactique, il y a un gros défaut de chez les Russes en fait il y a le terme en OTAN, vous savez, c'est les opérateurs JTAC, hein, c'est les coordinateurs air-sol. Le terme russe c'est les PUAN, pardon pour le jargon. Mais déjà il y a pas assez de coordinateurs sol. La cinétique de, vous savez, vous avez l'air task order, comment vous coordonnez les frappes, comment vous les planifiez. Cette cinétique, elle est très, là aussi rigide. Elle passe par beaucoup trop d'échelons différents pour vraiment obtenir un soutien aérien rapide. Et les Russes critiquaient le fait que, par exemple, si vous aviez une aviation, si vous avez besoin maintenant d'un soutien aérien au sol, vous aviez des temps de réponse qui étaient de l'ordre de 50 à 70 minutes, par exemple. Vous avez un vrai décalage entre la manœuvre tactique et le soutien aérien ensuite. Et ça, en fait, et enfin, dernièrement, du point de vue technique, les moyens de désignation russes restent encore très dépendants à tout ce qui est la visibilité optique, en fait, donc ce qui est directement détectable par l'œil humain. Donc par l'opérateur au sol qui va pouvoir voir un mouvement ennemi et qui va pouvoir ensuite le faire remonter et demander le soutien. Donc vous avez des problèmes de précision, vous avez des demandes pour faire remonter les ordres, vous avez ensuite un problème de déconfliction, comment vous établissez les différentes zones d'appui pour éviter que les différentes forces aériennes ne se gênent pas. Et donc tout ce problème, donc là organisationnel, technique, doctrinal que je vous présente, il est encore aggravé par un dernier élément. Et tout simplement que les défenses antiaériennes ukrainiennes fonctionnent, elles, bel et bien. Et de ce point de vue-là, les Russes, eux, ont très peu développé une mission donc SEAD, donc de suppression des défenses antiaériennes ennemies, comme nous, en Occident, on a pu le faire. En Occident, c'est vraiment c'est l'alpha et l'oméga, pour déployer une force aérienne, pour faire une campagne aérienne, vous visez d'abord à détruire le système antiaérien ennemi. Et les Russes, eux, ont une logique qui est, là encore, on expliquera ensuite, mais par leur logique asymétrique, ont préféré estimer, ils estiment, si vous voulez, que lancer un avion pour détruire une arme antiaérienne, c'est contre-productif. Pourquoi utiliser une arme contre une arme qui est dédiée à sa destruction, vous voyez? Donc, eux, ils ont une vision de la pénétration des défenses antiaériennes ennemies qui est beaucoup plus interarmée. Et notamment un rôle en fait majeur donné à l'artillerie au sol. Les couloirs d'aviation, les corridors aériens pour l'aviation russe, doivent être préparés normalement par les troupes au sol qui doivent du coup ouvrir par les tirs de l'artillerie une zone de relative supériorité aérienne. Et donc les forces russes n'ont que des mesures ad hoc liées à la mission et presque à l'autoprotection pour leurs avions vis-à-vis des défenses antiaériennes. Et donc tout ça, donc tous les désordres que j'expliquais avant, plus en fait cette non-résolution du danger donc de la défense antiaérienne ennemie, crée une situation de totale inhibition. Quelque part, on se retrouve avec une armée de l'air russe qui a maintenant du matériel extrêmement, qui a du matériel plutôt moderne et du coup très précieux, et qui du coup préfère en fait le garder en réserve plutôt que de risquer de le perdre en fait, et qui ne reçoit pas les ordres assez suffisamment rapidement et de façon suffisamment précise pour de toute façon essayer d'être vraiment beaucoup plus efficace. Vous avez vraiment une auto-neutralisation en fait de la force aérienne russe.
Ouais, très bien. Merci beaucoup Vincent Touré alors pour cette espèce de mise à jour, d'actualisation de tout ce qu'on dit dans l'épisode qui arrive maintenant tout de suite, où en fait on approfondit, on donne le contexte pour par exemple ce que vous venez de dire sur les logiques asymétriques de l'armée russe, c'est-à-dire le fait qu'ils cherchent toujours à se construire de manière un peu différente des armées occidentales. Donc tout ça, c'est cette philosophie, et disons cette plongée dans la pensée stratégique russe. C'est dans l'épisode qui suit tout de suite. Merci beaucoup d'avoir fait cette mise à jour. Je peux préciser, les auditeurs l'entendront peut-être, la qualité audio n'est pas exceptionnelle. C'est parce que vous avez maintenant passé l'Atlantique depuis la semaine dernière et que du coup c'est un peu plus difficile de faire la liaison. Mais merci infiniment et à bientôt.
Merci à vous.
Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour parler de la stratégie russe, sur le temps long et appliquée à la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Touré, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, dont je peux rappeler au passage que c'est l'un des principaux think tanks français consacrés aux questions de défense et de stratégie, spécialiste notamment de la pensée stratégique russe, sur laquelle vous préparez une thèse, et vous étiez déjà passé, on peut rappeler même si c'était fugacement, dans le Collimateur il y a quelques années maintenant, dans une émission où on parlait du concept d'opération multidomaine, c'était à l'occasion de la sortie du premier numéro de la revue Vortex. Donc bonjour Vincent, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour à vous.
Alors je vais donner un peu l'idée derrière cette émission, qui essayait de connaître un peu mieux la pensée, et même, appelons ça, la culture stratégique russe. Alors d'abord parce que c'est intéressant, c'est même passionnant dans l'absolu, ça n'est jamais que l'une des principales puissances militaires au monde, mais aussi avec l'objectif de comprendre un peu mieux, dans une certaine mesure, ce qui se passe en Ukraine. Parce que il me semble que l'un des problèmes pour appréhender la guerre d'Ukraine, c'est qu'on a une certaine difficulté à donner du sens à cette invasion russe, à ses formes et à sa philosophie. Alors ça s'explique évidemment par le fait qu'autant on peut voir, alors à peu près inégalement, mais ce qu'ils font et où ils concentrent leurs forces, autant il est beaucoup plus difficile de savoir pourquoi, parce que évidemment Vladimir Poutine et le pouvoir russe en général n'expliquent pas exactement ni en détail les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font, et d'ailleurs quand bien même ils diraient des choses, ce qui est parfois le cas, on serait pas forcément tenu de les croire pour des raisons évidentes. Je précise d'ailleurs que c'est aussi assez vrai des Ukrainiens, hein, qui gardent un assez grand secret sur leurs manœuvres et sur leurs intentions, même si le fait qu'on ait une grande coopération militaire avec eux, et qu'ils aient aussi un besoin de communiquer publiquement là-dessus, fait qu'on a sans doute un peu plus de matériaux, en tout cas pour essayer de les comprendre, même si c'est évidemment pas toujours très fiable. Dès lors, la question qui se pose, c'est à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher pour essayer de donner du sens à la stratégie, aux manœuvres russes ? Et de ce point de vue-là, il me semble qu'une porte d'entrée possible, même si elle n'est pas unique, c'est d'essayer de comprendre un peu la stratégie russe par la tradition et par l'épaisseur historique de leurs réflexions et même de ce qu'ils appellent leur science stratégique, parce que, disons-le, c'est une grande tradition fournie, importante en Russie, dans les milieux militaires et au-delà. Alors on en a parfois des concepts et des idées un peu vagues, et on trouve parfois des évocations plus ou moins précises, par exemple de l'art opératif russe, ou du souci de la profondeur, etc. Mais bon, ça va rarement très loin. Et donc, je pense qu'il est aujourd'hui utile d'essayer de préciser, de donner un peu de contenu à tout ça. C'est pas les ressources qui manquent, hein. On peut trouver des dizaines de milliers de pages sur le sujet, notamment qui datent de l'époque de la guerre froide, mais je crois que c'est peut-être bien de mettre ça sous forme de dialogue et de podcast pour essayer d'en faire quelque chose de peut-être plus digeste et plus accessible que des traités de stratégie soviétique ou russe gigantesques et intimidants, qu'ils sont d'ailleurs en premier lieu pour moi. Et donc, j'espère que vous allez nous aider, en tout cas moi, à y voir plus clair, Vincent. Enfin, dernière précision, l'idée c'est donc de donner de la culture générale sur la stratégie russe, il ne s'agit pas de dire que toute la guerre en Ukraine s'explique par ce qui est enseigné dans les académies militaires russes, parce qu'on verra certainement que c'est pas le cas, hein, et qu'il y a dans ce conflit d'ailleurs clairement des dimensions non conformes, ou à rebours de la tradition stratégique russe, mais ça n'en reste pas moins intéressant pour voir où et comment ils se tiennent à cette tradition, et où ils en divergent. Alors pour entrer dans le sujet, j'aurais aimé qu'on commence par caractériser, en quelque sorte, cette stratégie russe de l'extérieur. C'est-à-dire, ce que j'aimerais savoir, c'est D'où elle vient, cette tradition, et à quel moment est-ce qu'on commence à voir apparaître cette idée qu'il y a une vraie spécificité russe dans l'approche de la stratégie militaire, une vraie tradition, et en quoi est-ce que ça consiste, en tout cas au début ?
Ok, très bien. Alors, on peut distinguer deux choses. Il y a d'abord, on va dire, l'émergence des recherches sur cette spécificité et même l'apparition du concept de culture stratégique qui émerge dans les années 70 et qui est apparu justement pour expliquer, essayer de comprendre, en fait, la stratégie nucléaire soviétique à l'époque. Et parce que l'explication, notamment très réaliste, donc des relations internationales, avait peine, en fait, à donner du sens, justement, au développement russe. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est d'où vient effectivement, on va dire, les fondamentaux de leur réflexion. Et bien entendu, ces fondamentaux sont soviétiques. Le début, vraiment l'émergence, le foisonnement, on va dire, de leurs idées, débute vraiment dans les années 20 et 30. Il y a beaucoup de, on va dire, une conjonction, en fait, de retour d'expérience. Il y a d'abord le retour d'expérience des armées tsaristes, contre le Japon notamment.
Donc ça, c'est la guerre de 1904-1905,
tout à fait.
Que perd l'Empire russe, ce qui était un gros truc à l'époque, parce que c'était la première fois qu'une armée occidentale, avec des gros guillemets, perdait contre une armée orientale.
Tout à fait. Et donc à ça, on rajoute donc l'expérience non moins désastreuse donc, de la Première Guerre mondiale, puis l'expérience de la guerre révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à ces expériences historiques, il y a aussi la réalité humaine. C'est-à-dire que dans l'armée rouge naissante, vous aviez des officiers donc anciennement blancs, vous aviez les officiers révolutionnaires pur jus qui...
Donc blancs, rappelons, c'était tsaristes, contre-révolutionnaires.
Et donc de la rencontre de ces hommes et donc de ces expériences va naître en fait les premières grandes idées qu'on connaît aujourd'hui comme l'art opératif, les opérations en profondeur et aussi le début de l'idée qu'on peut utiliser la psychologie, l'action politique pour travailler les intentions de l'ennemi et ses perceptions. Et vous avez donc au début des années 20 et 30 en fait l'idée que pour dépasser le blocage donc des fronts linéaires de la guerre industrielle, il faut pouvoir flexibiliser, il faut pouvoir jouer avec la profondeur. Les Russes se rendent compte en fait que on ne peut plus avoir de bataille décisive, on ne peut plus simplement remporter une bataille contre une force précise pour remporter la guerre. Il faut vraiment faire s'effondrer le système adverse. Alors après, on a eu tendance
un peu comme leur propre système s'est effondré pendant la Première Guerre mondiale.
Vous avez effectivement l'idée, pour les soviétiques à l'époque, qu'il est possible de faire s'effondrer l'adversaire par des chocs militaires s'ils sont combinés à des chocs politiques. Ils l'ont vécu eux-mêmes avec les poussées allemandes liées à et qui ont été combinées à la révolution soviétique elle-même. Et vous retrouvez ça dans les tenants de la bataille en profondeur offensive, comme un Tchoukachevski, qui va imaginer que la guerre révolutionnaire venant de Russie va pouvoir rencontrer la guerre révolutionnaire, en fait, interne aux pays capitalistes. Et les moyens techniques dans ce schéma-là, donc l'aviation, la motorisation, vont être une sorte de trait d'union entre, du coup, le cœur de la révolution et les zones à libérer, finalement. Ça, c'est une première vision. Donc, c'est la bataille d'annihilation, comme les Russes la définissent encore aujourd'hui. Et l'autre option de la bataille en profondeur, c'était la guerre donc d'attrition, d'usure, et qui tend, elle, beaucoup plus, justement, vers la désorganisation. Et donc là, vous avez Svechin, qui est le maître à penser de ce courant d'idées. C'est une pensée qui, à l'époque, a été d'ailleurs déclarée comme défaitiste, car trop passive, mais qui réfléchissait à, en fait, comment employer la grandeur à la fois géographique, mais surtout humaine et le potentiel industriel d'un pays comme l'URSS pour justement attritionner l'adversaire, le pousser à bout, le désorganiser par, en fait, son propre élan et ensuite retourner, en fait, un peu comme une prise de judo, si je peux me permettre, retourner son élan contre lui en justement lançant une contre-offensive qui va le désorganiser, qui va le fragiliser, qui va le faire tomber en miettes. Un cas classique sur lequel ils reviennent beaucoup, c'est par exemple, ça va être la Mandchourie qui est pour eux, c'est l'offensive parfaite, pure et simple. Et puis après, vous avez forcément l'opération Bagration.
Donc la Mandchourie, on peut préciser, c'est l'attaque japonaise sur l'est de la Chine.
Non, c'est l'offensive, c'est la dernière offensive soviétique à la toute fin de la guerre, contre justement les Japonais en Mandchourie, et qui vont les bousculer en fait jusqu'en Corée.
D'accord. Donc ça, c'est cette espèce de retourner l'élan de l'adversaire contre lui et
alors,
le faire.
Sur la Mandchourie, effectivement, vous n'avez pas du coup un... Enfin, quelque part, l'élan japonais, il s'est déjà dilapidé en Chine. C'est-à-dire que les forces japonaises qui sont en Mandchourie sont quand même pas du tout au plus haut de leur forme. Elles souffrent de plein de désorganisations suite du coup à l'effort de guerre en Chine, au bombardement américain sur l'archipel. Et là, par contre, vous pouvez voir d'autres principes vraiment centraux pour les soviétiques qui sont l'utilisation de la surprise et de la mobilité. Et donc, il y a une grande poussée en fait, qui va comme ça complètement neutraliser les points névralgiques du dispositif japonais, le faire s'écrouler et présenter un état de fait en fait à son adversaire, échec et mat.
Et c'est à quel point est-ce que c'est une spécificité forte cette pensée russe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres
en fait,
parce qu'il y a une époque où on parlait par exemple de grandes stratégies prussiennes à la fin du 19e, on a pu parler de stratégies allemandes, autrichiennes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comparables ou est-ce que la Russie peut-être par le fait que bah, c'est un pays communiste et qui reste assez isolé de ce point de vue-là, il y a une sorte de culture stratégique qui est particulièrement spécifique qui s'y développe.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que la culture stratégique russe, sa façon de raisonner la guerre, se construit en miroir inversé de l'Occident. Il y a une recherche d'asymétrie permanente. C'est-à-dire que un même problème militaire que tout le monde connaît, un problème logistique, le problème de la suprématie aérienne ou comment percer un front, les soviétiques confrontés au même problème vont chercher, en ayant souvent conscience des solutions occidentales à ce problème-là, vont essayer de chercher en fait un contre-modèle qui va du coup surprendre ses adversaires, parce qu'il n'était pas prévu, et qui va essayer de mettre en avant en fait les propres forces de son système. Et vous retrouvez cette asymétrie dans... Il y a un côté un peu très... quelqu'un m'avait dit qu'ils étaient contrariens. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est possible de trouver une solution originale à un problème, celle-ci va être recherchée. Et ça se voit dans, par exemple, leur emphase sur le domaine terrestre, malgré l'apparition de l'aviation. Le fait que l'aviation est toujours subordonnée, même encore aujourd'hui, elle a un rôle plutôt marginalisé. Et c'est parce qu'en fait, ils estiment que leurs points forts sont à terre et que le contrôle de l'air peut en fait être plus simple, efficacement atteint par des forces terrestres, d'où notamment leur emphase sur les systèmes antiaériens. Et ce modèle de réflexion s'applique vraiment à... Là, j'ai cité un exemple, mais s'applique vraiment à tous les autres problèmes.
Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des grandes étapes? Donc là, on voit, vous nous indiquez que la genèse, c'est en quelque sorte dans les années 20 et 30. On imagine que l'épreuve du feu, très littérale, ça va être la Seconde Guerre mondiale. Voilà, comment est-ce que ça évolue, cette pensée stratégique-là évolue avec l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite l'entrée progressive dans la guerre froide et puis surtout l'entrée, j'imagine que ça compte aussi, dans une ère nucléaire, ce qui évidemment change l'équation stratégique pour tout le monde dès les années 50.
Tout à fait. En fait, on peut, la façon dont moi je l'interprète, on peut compter trois moments de réflexion, de reformulation. Donc le premier dont on a parlé, c'était l'expérience révolutionnaire, donc post-Première Guerre mondiale. La seconde, c'est la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'avez dit, qui montrait bien que la guerre en profondeur était un concept qui fonctionnait déjà et qui a entraîné des raffinements.
Donc là, en l'occurrence, ce serait le côté Svetchin que vous nous indiquiez, de l'attrition, on laisse l'ennemi gagner du terrain et puis la masse humaine et technique et industrielle russe l'emporte sur le long terme.
Tout à fait. Après, il y a, on va dire, une adoption un peu de facto aussi des idées de Svetchin. C'est-à-dire que la préparation de la Russie, enfin de l'URSS à la guerre, notamment avec l'Allemagne nazie, se basait d'abord plutôt sur le modèle offensif. Et ce modèle offensif les a pris de court parce que l'effet de dissuasion qui était conventionnel à l'époque, de masser donc aux frontières des États de l'Axe une armée très importante, une des plus grandes masses que les Russes avaient réussi à accumuler dans leur histoire, cette masse-là a été complètement détruite. Les Russes ont dû reconstruire de A à Z leur armée pour repousser l'adversaire.
C'est-à-dire que c'est Barbarossa qui fait la transition entre Tchoukalovski et
Svetchin. Tout à fait, grâce aux survivants des purges, comme Joukov par exemple. Pour reprendre les mots de Michel Goya, la victoire en changeant, c'est-à-dire que les pensées de la guerre, de l'art opérationnel de la guerre en profondeur avaient été complètement muselées avec les purges staliniennes, donc c'était vraiment mis de côté. Il a fallu, même si les idées ont été appliquées pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre au moins les années 60 pour les voir réhabilitées. Et donc, de facto, vous avez vu l'application de ces idées, mais dans la douleur. C'est-à-dire qu'il a fallu reconstituer les cadres, les officiers. C'est un peu le même problème qu'ils ont toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a trop de dépendance à des officiers, mais ils ne sont pas assez accompagnés. Et finalement, vous avez, et c'est une hantise de leur part, vous avez des grosses déperditions, vous avez une mémoire institutionnelle qui a du mal, en fait, à se fixer avec les soubresauts politiques qui viennent constamment interférer, en fait, avec l'évolution de la pensée militaire.
Donc ça, c'est le deuxième moment, en quelque sorte, et le troisième.
Et le troisième, c'est, en fait, c'est après le moment de l'unique option, donc le moment de l'annihilation nucléaire. Les Russes, en fait, prennent conscience qu'il est à nouveau possible, avec l'équilibre de la terreur, il est à nouveau possible dans ses interstices de mener une guerre limitée, donc sous le seuil, à l'ombre du nucléaire.
Donc ça, c'est à partir, c'est après le moment où ils sont dans l'euphorie, en quelque sorte, d'avoir des armes nucléaires. Mm-hmm. Donc c'est vers quel moment qu'ils ont
ça commence à la fin des années 60. Le moment de conceptualisation, c'est les années 1970. Et d'ailleurs aussi de modernisation capacitaire. Et puis leur mise en pratique, ou du moins en exercice, c'est le début des années 80, avec notamment Zapad 81, qui était leur grand exercice militaire pour justement les mettre en action.
C'est-à-dire, désormais, on se contente plus de dire « bon, bah, y a l'arme nucléaire, donc on peut vitrifier la planète et il n'y a pas besoin de réfléchir au-delà ». On se met à repenser des guerres limitées, donc où il faut refaire de la stratégie, quoi.
Eh bien, ils se rendent compte que le lien entre... Ils se rendent compte, en fait, que leur dissuasion nucléaire, pour être crédible, doit être accompagnée, en fait, de moyens conventionnels. C'est vraiment cette crainte, parce que pour eux, la crainte d'un nouveau Barbarossa est jamais éloignée. C'est vraiment la crainte, en fait, d'être pris à défaut, d'être déjoué, que cette dissuasion soit déjouée, qui les pousse, en fait, à reconstituer vraiment leur appareil conventionnel, leur appareil militaire conventionnel.
Et alors, pour qu'il y ait une tradition comme ça et une culture, appelons ça une culture stratégique, en fait, ça implique qu'il y ait des organes, des outils, enfin, des institutions pour que ça se perpétue. Alors, parce que, en fait, ça va avec tout ça, mais on est très peu familier de comment ça se passe en Russie, comment ça se passait à l'époque soviétique. On sait qu'il y a des académies militaires, on sait qu'il y a des théoriciens aussi, mais voilà, à quoi ça ressemble un peu ce milieu et ces institutions où se fait la stratégie russe?
Il faut partir déjà de l'idée, il faut comprendre le rôle, en fait, qu'a la conceptualisation du côté soviétique. Pour les soviétiques, une conceptualisation d'une qualité supérieure peut éventuellement compenser notamment des retards technologiques ou capacitaires. À partir de là, donc de cette importance critique, vous avez, et ça c'est une grande différence avec nos modèles d'état-major et de planification, vous avez encore un grand état-major qui en fait est véritablement le cerveau de l'armée russe et qui en fait est responsable donc à la fois de responsabilité opérationnelle, de commandement, mais aussi de réflexion, donc de la doctrine, jusqu'à même choisir et à impulser les orientations de la R&D. Et donc c'est vraiment l'état-major général qui, notamment par le journal le plus connu donc de la pensée militaire russe, qui est Pensée militaire, c'est le journal de l'état-major russe, enfin soviétique puis russe.
Donc c'est là-dedans qu'ils publient pour proposer des nouveaux concepts et qu'ils infusent sur un milieu militaire plus large, quoi.
Tout à fait. Après, vous avez bien entendu d'autres publications. En général, vous avez une publication par branche d'armée, déjà. Donc vous avez la publication pour l'armée de terre, pour les forces logistiques, et ensuite, potentiellement, par école.
Mais donc il y a un côté, j'allais dire universitaire, mais en tout cas, dans les carrières d'officiers et d'officiers généraux, il y a un côté intellectuel, académique et production de concepts que peut-être on a moins en Occident.
En partant, si vous voulez, l'état-major, donc général russe, concerne des officiers qui ne sont pas opérationnels. C'est-à-dire que vraiment, en Russie, vous avez deux catégories d'officiers. Vous avez les officiers, on va dire, pratiques, qui vont commander les divisions d'infanterie motorisée ou de tanks. Et après, très tôt, vous avez en fait un cursus complètement différent pour les officiers d'état-major général, parce qu'ils sont, concernés avec vraiment l'articulation, en fait, ils doivent devenir les cerveaux, en fait, de cette armée russe. Et donc, effectivement, ils sont poussés à vraiment se concentrer sur la théorie, sur l'art militaire.
Alors, maintenant, si on entre peut-être dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur, évidemment, on y a déjà touché un peu, mais disons sur ce qui fait cette tradition stratégique russe, vraiment son contenu. Alors, vous l'avez dit, il y a une espèce de pensée contrarienne, on reviendra dessus. Mais un des grands éléments que vous soulignez notamment, c'est le fait qu'il y a une très forte importance de la référence historique. C'est ce qui donne du sens à ce qu'on vient de dire juste avant. Il y a une raison pour laquelle on parle de ça, c'est que, en fait, pour eux, c'est aussi important, et notamment la référence à la Seconde Guerre mondiale et donc à la Grande Guerre patriotique. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Parce que c'est pas facile de retenir des leçons simples d'un truc aussi compliqué que la Seconde Guerre mondiale pour la Russie. Donc voilà, quel rôle ça joue cette espèce de mémoire ou de conscience historique de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale?
Il y a une dimension, je dirais, presque, oui, on peut le dire, presque sacrée, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs, on peut parler vraiment de fétichisme historique dans leur pensée militaire, et particulièrement de la Seconde Guerre mondiale qui écrase toutes les autres. Alors, pour leur défense, c'est le dernier grand conflit de haute intensité qu'ils ont dû mener. Donc, c'est la dernière expérience qu'ils ont pour essayer d'imaginer des opérations de grande ampleur. La guerre d'Afghanistan ou même la guerre de Tchétchénie sont considérées presque comme anormales. Et c'est vraiment l'histoire, en fait, si vous voulez, qui est donc la Seconde Guerre mondiale, la peur d'une nouvelle Barbarossa, cette fois plus terrestre mais aérienne, renforce un syndrome déjà de puissance assiégée. Les contraint à se fixer toujours sur les mêmes adversaires. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands impensés de la pensée militaire russe, c'est qu'il ne pense qu'à l'Ouest, c'est par exemple vis-à-vis par exemple, de la Chine, il y a un grand oubli, quelque part. Et vous avez du coup un côté très, très sacré, très rituel, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir une référence au début des articles ou à leur fin à l'expérience de la Grande Guerre patriotique. Et de façon presque anachronique pour nous, parce qu'on préfère les rétextes un peu plus chauds, un peu plus près de nous, qui permettent du retour d'expérience, vous allez avoir des études de cas encore aujourd'hui pour essayer, donc de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de comprendre des concepts actuels, pour réfléchir à la composition des BTG, hein, les unités qu'ils emploient en Ukraine, les groupes bataillonnaires tactiques, vous allez avoir des études de cas de telle offensive en 42 pour voir leur efficacité. De la même manière pour l'artillerie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile d'avoir une estimation de leur efficacité des tirs ou de leur stock de munitions, parce que la plupart des articles de l'artillerie se réfèrent aux grandes offensives d'artillerie du front de l'Est.
Alors ça, c'est, on y reviendra, j'imagine, parce que j'imagine que ça a des conséquences. Ça doit gêner un peu l'agilité de l'analyse tactique en direct que de devoir toujours s'en remettre à une guerre qui a maintenant 80 ans. Mais donc, deuxième idée, deuxième constante forte peut-être, et qu'il faut peut-être développer, parce qu'on en a parlé, c'est cette idée d'asymétrie, cette idée que de prendre un peu le contre-pied, ou en tout cas cette idée que... Mais en fait, on y touche un peu depuis le début, ce que vous disiez aussi, qu'on pensait un éventuel retard technologique par une supériorité intellectuelle, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée que, ils ont réfléchi à l'éventualité d'une confrontation majeure pendant la guerre froide, évidemment, et que, ils ont toujours cherché à prendre plus ou moins le contre-pied de la doctrine occidentale ou américaine, qui elle était assez claire, et du coup, en fait, ils sont un peu construits comme ça, quoi.
Le postulat de départ qui explique donc cette recherche de réponse asymétrique, c'est ce postulat, c'est cette croyance, à tort ou à raison, d'être en infériorité matérielle, technologique, même politique. Et à cette insécurité, vous liez du coup la peur justement d'être... à cette infériorité, pardon, vous liez l'insécurité. Et l'asymétrie, comme vous l'avez parfaitement souligné, c'est justement rechercher la compensation en toute chose et la recherche de surprise. Et c'est que en faisant ça qu'ils estiment en fait pouvoir bousculer leurs adversaires.
Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment les surprendre? C'est-à-dire, puisque vous travaillez sur la pensée stratégique russe et vous n'êtes pas le seul, etc. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, même ce côté-là finit par être assez bien documenté. C'est-à-dire, même en Occident, on finit par, alors ça intéresse pas tout le monde, mais on finit par avoir quand même une certaine idée de leur doctrine stratégique. Donc peut-être qu'ils prennent des options relativement différentes de l'Occident, mais en fin de compte, ça finit par devenir relativement prévisible aussi.
Si vous voulez, à travers la notion de surprise, ils comprennent la recherche d'un déséquilibre. Donc cette surprise, en fait, elle peut être doctrinale. Et effectivement, au bout d'un moment, mais comme les mouvements de troupes, hein, au bout d'un moment, vous pouvez les voir maintenant avec des capteurs modernes. Mais la surprise, elle reste, c'est un effet temporaire. Donc vous pouvez créer des effets de surprise. Si vous les calibrez correctement, du moins c'est ce qu'ils espèrent, vous pouvez toujours la générer. Et même du temps soviétique, vous aviez quand même des armées vraiment massives soviétiques, l'idée était toujours de pouvoir manifester cette surprise au bon endroit, au bon moment, et c'est pour ça qu'ils ont une telle emphase sur des, vous savez, le camouflage, la maskilovka, et ça participe donc de ça.
Et enfin, troisième pilier, ben après on reviendra sur d'autres concepts, mais troisième pilier, enfin, il y a une question sur le commandement. Alors vous en avez déjà un peu parlé avec cette idée qu'il faut un gros cerveau central à l'armée russe, mais c'est un truc qu'on a pas mal vu en Ukraine, parce qu'il y avait notamment dans la phase initiale, qu'il y avait une grosse rigidité du commandement, qu'il y avait cette idée que tout était dirigé d'assez loin du terrain et que du coup ça manquait peut-être d'une agilité, que alors on n'est pas obligé d'entrer dans des doctrines, c'est ce qu'on appelait la tactique pour l'armée allemande, c'est-à-dire l'idée que il peut y avoir des initiatives sur le terrain au plus bas, au contraire l'armée russe reste donc sur une sorte de postulat que ça doit partir de très haut parce que c'est comme ça que ça marche.
Le postulat, si vous voulez, c'est l'ambition, du coup l'illusion comme vous le dites, mais c'est l'ambition du contrôle. Et dans leur façon de réfléchir, pour comprendre un problème et donc le résoudre, il faut vraiment avoir une vision intégrale, holistique, comprendre le fonctionnement donc de l'objet en question et voir toutes ses conséquences pour vraiment contrôler le résultat en fait d'une action. Et cette vision-là, donc très verticale, très intégrale, etc., elle s'applique donc dans les choses militaires. Et c'est pas simplement c'est pas simplement un manque de confiance dans les subordonnés. C'est vraiment l'idée que la prise de décision avec le maximum d'informations possibles est la meilleure. Et la situation dans laquelle la personne la mieux informée est celle qui est au sommet en fait de la pyramide de commandement, qui peut avoir accès aux rapports tactiques, mais aussi donc des situations qui se déroulent sur les autres parties du front. Et c'est ça qui justifie en fait ce côté très pyramidal. Et cette façon de réfléchir, elle est vraiment marquante parce qu'elle va imprimer ensuite tout le commandement et la structuration de l'armée russe. Ils ont toujours eu un problème à donc, cette ambition du contrôle et à gérer une masse d'informations toujours énorme. Et ça, même avant l'ère de l'informatique. Quand vous deviez gérer des masses de millions d'hommes, c'est presque même plus difficile sans moyens informatiques que maintenant. Donc ils ont toujours essayé de... En fait, et là c'est asymétrique, ils réfléchissent à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire de dire « bon, bah, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout comprendre », il faut en fait donner l'initiative aux plus bas échelons qui, eux, sont au fait de la réalité du moment. Les Russes vont dire « bon, en fait, il faut standardiser ». Si on standardise notre prise de décision, si finalement, quelque part, on rend un peu mécanique les relations de commandement, si chaque subordonné en fait a des tâches bien attitrées et des tâches qui ont été d'ailleurs scriptées, donc répétées en exercice auparavant, on peut contrôler ses résultats. On peut permettre en fait à la prise de décision d'être plus rapide. Et comme on sait que ils réfléchissent comme ça.
C'est pour simplifier le boulot du chef suprême. Il faut qu'il y ait une rigidité dans les applications des procédures parce que ça simplifie le travail du gros cerveau en haut.
Tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, l'armée russe, pour prendre une image, c'est un peu comme vous savez, les vieux pianos automatiques. C'est-à-dire que vous avez les plans sont standardisés. Et le commandant russe du plus bas échelon au plus haut a en fait plusieurs scénarios à appliquer, qu'il l'adapte quand même à la marge en fonction de la situation, mais en fait qui lui permet de prendre la décision très rapidement. Et c'est ça qu'il met en avant. Il préfère du coup avoir une action rapide et parfaitement contrôlée, comprise à tous les échelons, plutôt qu'une une action qui aurait été incrémentalement sur le terrain développée. Il préfère ça. Et cette mécanisation humaine qui a eu lieu donc dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre froide, aujourd'hui, elle se couple avec notamment l'automatisation. C'est-à-dire que, littéralement, ils imaginent l'officier russe comme un homme augmenté qui va s'adjoindre en fait les services d'un ordinateur. Ils parlent de C2 automatisé, donc de points de commandement et de contrôle automatisé. Et la machine, en fait, le commandant lui fournit, l'alimente avec les données du terrain, et attend en fait qu'elle lui sélectionne un des meilleurs scénarios qu'il a appris, avec lequel il s'est entraîné, etc. Et
très marrant, ça tape tout à fait dans le cliché du joueur d'échecs. Voilà, ça tape tout à fait dans le grand cliché sur l'esprit et l'âme russe et le côté.
C'est ça qui est vraiment, enfin, du moins pour moi, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que vous allez avoir un problème qui est partagé par tout le monde. On vit tous dans le même monde réel, c'est-à-dire que le flot d'informations n'est pas gérable par un seul homme. Mais nous, du coup, au lieu de s'entêter à toujours concentrer la responsabilité dans quelques grandes têtes, on s'adapte donc à la difficulté de prendre la décision. Et les Russes vont travailler à rebours. Ils sont là en mode, non, la meilleure décision, c'est celle qui est la mieux informée, c'est celui qui a tous les tenants d'une situation, c'est le commandant suprême, donc il faut tout faire pour que ce commandant puisse prendre sa décision le plus rapidement possible. Donc il faut anémier, en fait, concrètement, l'initiative des bas échelons. Et ça va être compensé par la répétition, l'entraînement, etc.
Ouais. Alors du coup, juste avant de repasser, peut-être d'évoluer vers la guerre d'Ukraine, j'aimerais qu'on fasse peut-être un sort, alors ça va pas être facile, mais je vous fais confiance, à une expression qui masque beaucoup de choses, mais j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est l'art opératif russe. C'est souvent, on en parle en prenant un air un peu pénétré, en disant c'est la grande tradition de l'art opératif russe, mais simplement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on entend par ça? Qu'est-ce que ça veut dire, l'art opératif russe?
Alors, déjà, l'art opératif existe. Les Russes font de l'art opératif, ils en font moins, j'y viendrai dans ma réponse, mais l'art opératif existe. Le problème, c'est qu'il a eu tendance, dans ses multiples interprétations, à recouvrir du coup plusieurs réalités. C'est-à-dire que de base, l'art opératif, c'est une innovation doctrinale dans les années 20-30. Les Russes, en fait, reconnaissent que l'échelon tactique ne suffit plus pour gérer la multiplicité des engagements et que le niveau stratégique est beaucoup trop éloigné, sinon il va y avoir de la micro-gestion. Donc, ils inventent l'art opératif, ils mettent une couche intermédiaire pour huiler la coordination.
Alors, c'est pas tout en bas, c'est pas le grand chef tout en haut, il faut mettre un middleman.
Et c'est une idée qui est moins... elle a une réalité géographique. C'est la profondeur, il faut atteindre la profondeur, il faut neutraliser cette profondeur. Mais c'est une réalité qui, en fait, recouvre la géographie, mais qui est une idée politique, une réalité politique, sociale, militaire.
Ça veut dire quoi, il faut atteindre cette profondeur?
Alors, en gros, la théorie, le postulat de la bataille des opérations en profondeur, c'est que pour détruire l'ennemi, il faut créer un choc opératif. Le choc opératif, c'est c'est comme un système immunitaire quelque part. Vous allez surcharger en fait tous les moyens de soutenabilité de l'organisme militaire en face de vous, au lieu d'essayer de détruire toutes ses défenses, on va dire à l'avant, en extérieur. Vous allez attaquer sa logistique, vous allez attaquer ses centres nerveux. Et vous allez donc neutraliser sa profondeur. Et la profondeur donc n'est pas que géographique. C'est juste que factuellement, les moyens les dépôts de carburant, les centres de décision ne sont pas sur le front eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus en arrière.
Donc pour déséquilibrer la ligne, en quelque sorte, l'idée c'est qu'il faut aller taper les arrières pour permettre de faire une brèche à l'endroit où on veut.
Et de façon très simple, le pendant de la profondeur dans la pensée soviétique, c'était la masse. C'est-à-dire que si vous vouliez défendre ou attaquer telle profondeur, il vous fallait en fait une masse équivalente. Et c'est pour ça que ça a justifié ce modèle d'armée très massif. C'est-à-dire qu'ils estimaient que, parce qu'en plus à l'époque les échelles étaient vraiment dithyrambiques, vous étiez à plus de 300 km pour un théâtre d'opération, donc il fallait plusieurs centaines de milliers d'hommes pour pouvoir occuper ce terrain, pour en fait parcourir la distance. Et il faut garder raison. On a eu tendance à décrire l'art soviétique comme un art un peu brutal. Vous en voyez, vous savez, tous les stéréotypes de masse humaine, etc. Mais en fait, c'était justement comment ciseler cette masse, comment la rendre agile, comment la rendre flexible, pour qu'elle puisse vraiment s'engoncer à très grande vitesse dans cette profondeur. Un peu comme un effet cinétique, en fait. Masse, vitesse égale énergie. Et créer justement ce choc qui allait mettre à bas le système adverse.
Donc c'est ça, l'art opératif, c'est comment réussir à déséquilibrer l'adversaire dans un point pour créer la brèche et s'y engouffrer aussi vite que possible, c'est ça?
Tout à fait. Ça, c'est si vous voulez, effectivement, c'est le modèle de base, c'est le modèle originel. Après, cette notion de profondeur et donc l'art opératif a évolué avec la technologie, la géopolitique, les réalités militaires, etc. Mais Donc, en fait, il a lui-même, il n'est plus tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez, et donc ça va devenir un peu, peut-être un peu technique, mais l'art opératif, c'était un effort systématique d'écrasement, de désorganisation de l'adversaire. C'est-à-dire que les Russes essayaient de lancer des offensives simultanées et de façon systématique sur l'ennemi. Avec l'apparition donc des nouvelles technologies, comme vous avez maintenant la possibilité avec le balistique de viser quasiment en instantané des points très éloignés de la profondeur adverse, avec l'informatique vous pouvez beaucoup plus rapidement coordonner vos troupes, on est passé d'une logique, on est passé à une logique de système. C'est-à-dire qu'on est passé à quelque chose de... On peut détruire un adversaire, en fait la profondeur s'incarne dans ses nœuds critiques. Et donc, quelque part, il y a un affinement. Une des erreurs de l'appréciation occidentale de l'art opératif, elle vient justement de ce moment de découverte des archives soviétiques, entre les années 90 et 2000. L'illusion, ça a été de croire notamment que l'art opératif était de base, originellement, systémique. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est très important parce qu'il y a une vraie différence. Quand on parle de guerre systémique, on va penser par exemple à Desert Storm, vous voyez. Il y a quelque chose de, il y a une logique d'effet déjà. Il y a quelque chose de plus raffiné. L'invasion, donc la première guerre du Golfe. Vous avez quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins. En fait, concrètement, vous avez plus besoin de traverser la distance que les armées industrielles devaient parcourir pour neutraliser la profondeur. Donc, vous pouvez taper plus en pointillé de façon beaucoup plus intégrée.
Notamment par l'aviation, par les missiles de croisière, etc.
Vous pouvez en fait beaucoup mieux calculer l'effet que vous allez avoir sur le système adverse. Et les soviétiques suivent cette même évolution. Mais donc vous avez déjà plus le même art opératif. Et ça rejoint les trois moments dont on a parlé au début, c'est-à-dire que vous avez un art opératif qui est industriel, qui naît de la Première Guerre mondiale. Vous avez un art opératif qui sort du conflit mondial et qui a ses tenants et ses aboutissants pour une guerre vraiment industrielle de grande ampleur. Et puis après, vous avez vous avez quelque part après l'unique option nucléaire, où là, vous avez l'apparition déjà du domaine spatial, de l'informatique, des frappes de précision dans la grande profondeur, qui font que vous ne pouvez plus réfléchir à votre adversaire comme une masse ou comme un ensemble de capacités, mais comme vraiment un système qui est innervé par des moyens de communication, par des moyens informatiques, et qui va falloir du coup dégrader pour remporter la victoire.
Из Америки приїхав наш надійний побратим, познайомтеся із ним.
Хай мас!
В росіян зі сраки дим.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
За ракетою ракету на паскудних ворогів випускає весь наш гнів.
Хай мас!
Робить все без зайвих слів.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
Московити зі снарядами грибуться на складах, коли робить свій бабах.
Хай мас!
Наганяє лютий страх.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
Розробляють окупанти свої плани у штабах, але чути знов бабах.
Хай мас!
Лупить нечість по зубах.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним, як вітається із ним.
Хай мас!
Підіймає чорний дим.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
Не любити московитів і довести нелюбов, помагає знов і знов.
Хай мас!
Найточніший орколог.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла.
Хай мас!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Alors, évidemment, tout ça, c'est très dynamique, on le voit depuis tout à l'heure, ça s'est accorrélé aux enjeux et aux problèmes du moment, donc ça a évidemment évolué avec, avec l'histoire de l'URSS et de la Russie. Donc, par exemple, comment est-ce que ça a changé tout ça avec la chute de l'URSS? Comment est-ce que l'armée soviétique, donc puis russe, a évolué dans sa stratégie, dans ses traditions stratégiques, avec ben, tout ce que ça implique? Alors après, c'est vaste, hein, mais qu'est-ce que ça a changé, la chute de l'URSS, à la stratégie militaire russe?
La grande différence, c'est la différence des moyens. Vous tombez dans, en fait, vous passez d'un système de relative opulence pour le système militaire à un système où les ressources sont beaucoup plus comptées. Et où la discipline est moins bonne, où les commandes de l'État se passent beaucoup moins bien. C'est pas pour dire que le monde soviétique était un monde fabuleux pour le complexe militaro-industriel, mais il y avait beaucoup plus d'investissement dans l'outil militaire. Et cette chute, en fait, pour la pensée militaire russe, c'est vraiment la chute de Rome. Il y a un côté très renaissance, en fait, avec le début des années 2010 et le retour, justement, des investissements. C'est-à-dire que vous avez pas tant de réformes qu'une mise à l'échelle de la pensée militaire russe sur ses moyens. Mais ça reste avant tout un effort de rattrapage. C'est vraiment l'idée que l'Union soviétique avait parfait un art militaire qui était inégalé. Et donc toutes les théories des années 80 que les soviétiques ont développées, les Russes ont essayé de les mettre en pratique, en fait d'enfin avoir les moyens de les développer. Notamment avant que les sanctions s'abattent sur leur pays en 2014, en important beaucoup plus leur armement à l'étranger, pour participer des modèles, par exemple, de guerre réseau centré américain. Donc, vous savez, c'est l'intégration donc des capteurs avec et donc des moyens de reconnaissance avec les effecteurs, donc l'artillerie, l'aviation, etc. Et les Russes ont essayé de participer de ça. Leur modèle théorique, pour le coup, était assez moderne quand il est sorti dans les années 80. C'est juste que y a eu quand même du temps, et là, l'adage russe, c'est il y a toujours un certain écart. Entre la théorie et la pratique. Et depuis, en fait, l'arrivée de Poutine au pouvoir, leur ambition, ça a été de combler cet écart entre théorie et pratique, avec le peu de succès que, finalement, on connaît aujourd'hui avec l'Ukraine.
Oui, c'est-à-dire, donc, oui, là, on est passé un peu rapidement dessus, mais il y a évidemment la crise, la grande crise des années 90, où tout part à volo, et c'est l'idée que, du coup, on peut reconstruire sur ces ruines, en quelque sorte, et on peut reconstruire mieux, avec plus de moyens, et en tout cas, à une échelle peut-être un peu plus réduite, mais on peut faire beaucoup plus efficace, et enfin donner les moyens à cette si géniale pensée stratégique soviétique qui n'avait pas les moyens de ses ambitions dans les années 80.
Tout à fait. Après, la différence, vous commenciez à avoir des divergences et des réformes, une certaine, vraiment, de nouveaux concepts originaux, à partir de l'intervention en Syrie, à partir de 2014-2015, vous commencez à avoir des auteurs qui reconnaissent, en fait, que le modèle conceptuel soviétique est simplement mort avec l'armée qu'il avait inventée. Et qu'il était illusoire de continuer à essayer d'imaginer de grands concepts d'opération qui demandaient des moyens que la Russie actuelle ne peut pas se payer, et qu'en fait, ces concepts ne fonctionnent plus.
Donc, ça leur a mis quand même 25 ans pour percuter ça, quoi.
Tout à fait. Le problème, c'est que vous avez... Et c'est là où le concept de culture stratégique est intéressant, c'est que la culture stratégique, c'est la méta. La culture stratégique, il ne faut pas croire que c'est un tout qui va conditionner les comportements au millimètre près, au geste près, mais c'est ce qui va conditionner votre théorie du savoir. Comment vous comprenez les choses, comment vous les apprenez, comment ensuite vous essayez d'exécuter, de passer de la théorie à la pratique. Et dans une pensée, justement, dans une culture stratégique russe qui est très verticale, où la référence à l'histoire est juste incontournable, comment revenir, comment critiquer les textes anciens? Les textes anciens qui sont théoriquement considérés encore aujourd'hui comme cristallins, si vous voulez, sans faille. Ça demande un effort, ça va à l'encontre, ça irait à l'encontre de leur culture. Ils estiment qu'ils doivent continuer à améliorer, en fait, ce qui leur a été légué. C'est un héritage. Il y a un côté, vraiment indépassable. Et c'est qu'avec en fait, quelque part, un moment de... comment dire, de satisfaction un peu quand vous arrivez avant la guerre en Ukraine, ce qui peut aussi expliquer le lancement du conflit. Vous avez une armée russe qui, depuis très longtemps, a en fait retrouvé confiance en l'avenir. C'est-à-dire qu'elle estime que elle a rempli sa part du contrat justement vis-à-vis des théories passées. Ils estiment, maintenant on le sait plutôt à tort, mais ils estimaient qu'ils avaient par exemple réussi à avoir suffisamment de capacité de frappe de précision dans la profondeur. Par exemple, c'est vraiment, vous savez, ils ont une obsession pour les feux indirects et l'artillerie, donc c'était vraiment un point central pour eux. Et là, quelque part, vous arrivez à la fin de la décennie 2010, et les Russes se disent « c'est bon ». On a rempli les cases à cocher, c'est bon, maintenant on a les missiles, on a revalorisé l'aviation, donc c'est bon, on maîtrise la guerre aérienne, on est à l'égal maintenant des Occidentaux, on a rattrapé les Américains. Et donc, à partir de là, en tout cas c'est comme ça que je le comprends et que j'interprète, vous avez des auteurs qui disent « bon, maintenant que c'est fait, on peut peut-être réfléchir à améliorer, à trouver de nouvelles idées, parce que le monde a évolué, parce que tout n'est pas quand même parfait, mais voilà. » Vous voyez.
Ouais. Et puis surtout, on peut peut-être s'en servir.
Et malheureusement, vous avez une désinhibition. C'est-à-dire qu'ils estimaient vraiment être arrivés au niveau des Américains. Et vous avez un côté... Vous avez, avec cette intervention en Ukraine, surtout dans la première phase... une sorte de pastiche morbide et très mal réussie, en fait, de l'invasion américaine en Irak. C'est-à-dire que l'ouverture de la guerre se fait par une campagne de frappe de précision, plus ou moins de précision, mais de campagne de frappe dans la profondeur, dans toute la profondeur ukrainienne. Vous avez une opération qui se considère spéciale, donc presque qualifiée d'opération antiterroriste par les Russes. Il s'agit de décapiter un gouvernement mafieux, drogué,
les adjectifs, etc. Mais c'est intéressant qu'il soit revenu aux nazis aussi, parce que ça révèle ce que vous disiez sur l'obsession de la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Mais vous avez un syncrétisme en fait assez étrange. Vous avez donc les références à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc cet écho aux guerres d'Irak, ou même l'argument des laboratoires, bactériologiques. Les Russes ont accusé les Ukrainiens d'en avoir. Donc oui, il y a
ça. Ça me fait penser à un truc qu'on disait il y a longtemps avec Olivier Schmitt. Alors aujourd'hui, ça a l'air un peu plus bizarre, mais c'était dans une émission autour de son truc sur la temporalité dans la guerre. Il disait que Vladimir Poutine est le plus grand troll des relations internationales, parce qu'il a un côté de toujours... prendre, s'approprier les cas où l'Occident était un peu limite, notamment rhétoriquement, et de l'appliquer de manière complètement déformée, mais de dire, vous voyez, on fait comme vous, quoi.
Oui, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, ils réfléchissent vraiment par miroir interposé. Mais donc, quelque part, les limites d'une réflexion, d'un modèle de pensée, vous réfléchissez toujours par rapport à quelqu'un d'autre, c'est que même si vous essayez de faire différemment de lui, vous partez toujours de ce qu'il fait. Donc, à la fin, il y a toujours cette comparaison qui est jamais très valorisante.
Mais alors, du coup, donc là, on en arrive à cette guerre en Ukraine et à ce qu'elle révèle sur la manière dont la Russie a fait évoluer sa stratégie. Je veux dire, c'est intéressant parce que, en fait, ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure... sur la culture stratégique russe, notamment cette idée d'attrition, les idées à la Svetchine, etc., on a presque l'impression que c'est l'Ukraine qui l'a fait dans cette guerre. C'est-à-dire ce côté, on lâche du terrain, mais on essaye de favoriser l'attrition de l'ennemi, on essaye de favoriser sa désorganisation, etc. Même l'idée de taper dans la profondeur les réseaux, on a l'impression que c'est un peu ce que l'Ukraine fait depuis qu'ils ont des lance-roquettes multiples. Il y a un côté, on a presque l'impression... Ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, on a presque l'impression que dans une certaine mesure, c'est l'Ukraine qui se l'est approprié, ce qui au demeurant serait pas très étonnant, parce qu'on peut rappeler que une bonne partie de l'état-major ukrainien a quand même été formé, en tout cas un fort héritage soviétique doctrinal.
Déjà, une grande frustration, c'est que les Ukrainiens ont des publications militaires qui, malheureusement, sont bien mieux protégées que celles des Russes. Et là-dessus, depuis le début du conflit, en toute chose, ils ont montré vraiment une aptitude à manier l'information, à la garder, à la donner à bon escient pour se défendre. Mais je parlerai plus d'un syncrétisme. Parce que, lâcher du terrain pour gagner du temps ou pour préserver les hommes, c'est la réalité des combats. Si vous n'avez pas les moyens de tenir votre ligne, vous faites une défense plus mobile, etc. Mais avec l'Ukraine, on peut parler d'un syncrétisme. Il y a Il y a déjà une grande influence depuis 2014, donc des concepts occidentaux. Moi, mon interprétation, c'est que les Ukrainiens, depuis 2014, ont initié, ont concentré leur effort de modernisation sur leur pion tactique, donc l'infanterie, etc., qu'ils ont essayé de rendre beaucoup plus maniable, ils ont essayé de la valoriser, donc c'est, pour reprendre le concept d'Enrotin, les techno-guerriens, hein, c'est-à-dire que vous donnez à vos hommes une grande initiative sur le terrain, vous quadrillez le territoire, vous faites comme ça une sorte de filet qui va créer de l'attrition chez l'adversaire et qui va en fait le rendre vulnérable à des contre-attaques, celles-ci menées par des unités plus lourdes. Donc là, un grand rôle aux unités mécanisées lourdes ukrainiennes. Et puis aussi une influence des pays baltes. C'est les doctrines de défense totale. Ils se sont beaucoup inspirés de ça.
On peut rappeler, c'est notamment, la Finlande, la Norvège, ce sont des pays qui, depuis un certain temps, réfléchissent quand même très très fort à la possibilité que les Russes les démange un peu vers l'ouest. Et qui, du coup, depuis très longtemps, en tout cas depuis bien 10-15 ans, ont organisé des systèmes de réserve. S'il y a une invasion russe, globalement, ils sont capables de déclencher une mobilisation assez générale, assez rapidement, et qui serait tout à fait efficace, probablement.
Et c'était un des revers de la médaille et une de mes inquiétudes par rapport aux Ukrainiens, mais là, je ne sais pas quand ça sera publié, mais pour l'instant, ils ont vraiment de très bons succès sur le terrain dans leur contre-offensive. L'inquiétude, c'était que donc vous avez un modèle de défense au bas échelon qui est modernisé, qui est donc le modèle des États baltes. Le problème, c'est que dans le cas des États baltes, c'est un modèle qui est voulu comme complémentaire. C'est-à-dire que les États baltes fournissent donc la défense territoriale en attendant l'arrivée de l'OTAN. Quelque part, le maillon de la contre-offensive, l'Ukraine n'en disposait pas. Et donc c'est très intéressant de voir qu'ils arrivent à commencer à en maîtriser le B.A.B.A. Et c'est là où, à mon avis, doit subsister des restes de pensée soviétique. Et j'avais été très surpris de voir que, notamment, ils ont un programme, notamment de C2 automatisé, comme celui des Russes, où ils ont essayé vraiment de faire la même chose. Donc C2 automatisé pour la défense antiaérienne, pour les forces terrestres, navales aussi, il me semble. Donc, vraiment,
c'est un C2 automatisé, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le commandant contrôle automatisé, c'est-à-dire on garde un gros cerveau, mais simplement on lui met beaucoup de machines autour plutôt que décentraliser la décision.
Mais de toute façon, maintenant, encore une fois, cette guerre, elle est vraiment fondatrice pour eux. Et en fait, là, on parle encore de synthèse, mais dans quelques mois, et puis même déjà maintenant, ils ont leur propre façon de faire la guerre.
Alors, du côté russe, qu'est-ce qui vous a surpris du point de vue de stratégique russe? C'est-à-dire, vous connaissez bien, c'est littéralement votre spécialité, cette doctrine russe, cette manière dont ils pensent la guerre, dont ils pensent la stratégie. On peut dire qu'il y avait quelques concepts intéressants qui émergeaient depuis quelques années. Il y a le concept de défense active, notamment, qui a émergé en Russie à partir de 2019, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas rester passif sur un danger perçu, et notamment... S'ils percevaient l'Ukraine comme une sorte de cheval de Troie de l'Occident, il vaut mieux attaquer tout de suite plutôt que attendre l'offensive otanienne ou je sais pas quoi. Mais comment est-ce que vous replacez, disons, cette décision d'envahir l'Ukraine dans les évolutions plus ou moins récentes de la grande stratégie russe?
En fait, de façon, c'est vraiment, en fait, de façon absurde. La façon dont ils ont intervenu en Ukraine fait parfaitement sens au niveau de leur classification des conflits. C'est-à-dire que la Russie, quand on regardait ce qu'ils faisaient, etc., ils estimaient avant la guerre en Ukraine qu'ils étaient capables de... Donc ils ont une typologie des guerres, il y a la guerre locale, c'est la guerre de contre-insurrection, vous avez la guerre régionale, qui elle implique un à deux états et qui est beaucoup plus régulière, et puis ensuite vous avez la guerre de grande ampleur, donc c'est surtout vis-à-vis de l'OTAN. Et les Russes estimaient que c'était bon, ils maîtrisaient les guerres locales et qu'ils pouvaient maîtriser une guerre régionale de basse intensité. Certains auteurs...
C'est quoi, ces types Géorgie ou Ukraine 2014 ?
Exactement. Par exemple, certains auteurs russes estiment que la guerre en Géorgie était une guerre régionale, mais petite. Vous voyez. Une guerre locale, ça sera par exemple l'intervention en Syrie. Et donc ils estimaient pas être capables de mener un conflit de grande ampleur. Et je pense que c'est ça qui a expliqué qu'ils pensaient bizarrement que l'Ukraine était en fait envahissable, parce qu'ils estimaient vraiment qu'en fait il n'y avait pas d'État ukrainien ou d'armée ukrainienne en face d'eux. Donc ils se sont dit, finalement, il y aura nos opérations, ça va surtout être de la pacification. Le dur des combats sera centré sur la capitale de Kiev, et une fois que ça sera tombé, on pourra complètement s'accaparer le pays. Ce qui est, par contre, vraiment dérangeant, enfin nouveau, et c'est lié à la construction du pouvoir en Russie avec Poutine, c'est que, alors qu'auparavant, vous aviez vraiment une continuité entre but politique et but militaire, là, il y a eu cassure. C'est-à-dire que vous avez, ma petite idée, c'est que vous avez eu des objectifs politiques qui ont été définis par rapport à l'Ukraine, à Moscou. Donc, dénazification, donc changement de régime et démilitarisation, donc neutralisation de l'Ukraine, destruction de son appareil militaire et de son complexe militaro-industriel. Mais en fait, les buts militaires, eux, n'ont pas du tout été définis, alors que normalement, si on restait sur ce schéma vertical très intégré, vous deviez avoir vraiment une continuité entre moyens militaires, moyens politiques. Et là, vous ne l'avez pas du tout.
La victoire totale militaire, ça ne marche pas comme objectif militaire ?
C'est pas ça. Non, mais je veux dire, par rapport à la préparation des moyens. Si
vous voulez dire qu'il ne s'était pas donné les moyens de cet objectif.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un objectif politique d'accaparation et de destruction de la souveraineté d'un État voisin. Et on peut, réalistiquement, vous prévoyez du coup des moyens quand même conséquents. Enfin, concrètement, c'est synonyme quand même d'une guerre de haute intensité. Et ça, par contre, ça n'a pas été compris. C'est, en fait, on en reste à une guerre locale.
Donc vous avez, après, ils réussissent quand même assez bien depuis 6 mois, c'est qu'ils en avaient sous la pédale.
Ah non, vraiment pas. La première phase, c'est complètement catastrophique. C'est-à-dire que vous avez une armée russe, en fait, elle avait agi à rebours de sa pensée stratégique, de ses manuels, de sa culture strat. Mais en fait, il n'y a juste pas eu d'activation. C'est-à-dire que, honnêtement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder, bon, certes, les textes, mais ensuite comment c'est mis en œuvre sur le terrain. Vous voyez des colonnes russes qui ne sont pas du tout en ordre de bataille, qui se préparent à rien, et qui du coup tombent dans des embuscades face à des Ukrainiens qui, eux, sont préparés. Vous avez des histoires complètement folles.
Donc ça, vous voulez dire dans le truc d'automatisation, de standardisation des procédures, du commandement, etc. Même de ce point de vue-là, très binaire, est-ce qu'ils font bien ce qu'on leur a appris ou pas ? Non.
Ah bah là, pour le coup, je pense que c'était un accélérateur d'erreur. Parce que du coup, de base, vous aviez un plan qui était quasiment inexistant, il n'y avait quasiment pas de précautions prises dedans. Et la remontée d'informations a du coup été complètement rigidifiée. Donc la prise de décision sur comment réarticuler le dispositif, c'est juste complètement... Enfin, créer un embouteillage, à mon avis, sur Moscou. Par rapport à ça, par rapport...
Vous voulez dire, du coup, ouais, c'est faire confiance au gros cerveau...
Mais quand le
gros cerveau se trompe et que c'est Vladimir Poutine et qu'il a des objectifs politiques qui n'ont pas de commune mesure avec ses moyens militaires, ça ne marche pas.
Et c'est ça, surtout que quand vous déconnectez la prise de décision, le pouvoir politique du cerveau militaire, et que les choses ne se passent pas comme le pouvoir politique l'avait espéré, et que vous demandez ensuite à l'état-major général, fais quelque chose, et que l'état-major général n'a rien planifié de vraiment sérieux, forcément, comme il n'y a pas de recours à lui, vous avez une cacophonie pas possible. Et ça se voit ensuite sur l'opération sur Kiev, vous avez des embouteillages logistiques complètement fous. Il n'y a rien qui a fonctionné, si vous voulez. Il n'y a rien qui a été activé. Et c'est pour ça que vous avez notamment les abandons de matériel. C'est des choses, par exemple, c'est 50% sur certaines unités de leur parc blindé, par exemple. Sur la première armée de chars, qui était normalement une des meilleures armées russes, vous avez un taux d'inefficacité qui est juste abyssal. Et ce qui est très surprenant, par contre, c'est que les moyens, l'agilité notamment décisionnelle, la rapidité de décision qui aurait dû permettre de se retourner, elle n'a pas eu lieu. Donc là, vous avez les problèmes de corruption, vous avez aussi l'attrition, c'est-à-dire que les officiers ont un rôle tellement prépondérant qu'ils se retrouvent...
L'agilité de décision, c'est quoi ? C'est
au plus rapide, au plus près, enfin au plus précis, au plus pertinent, en fait. Elle est complètement rouillée, elle est complètement...
Ça, c'est l'idée que malgré cette idée qu'il faut une grosse centralisation en haut, il y aurait eu quand même des procédures normalement qui auraient dû permettre une certaine efficacité, même au niveau les plus tactiques.
Il y aurait dû avoir une prise de conscience, il y aurait dû avoir une reprise. Et celle-ci n'a pas eu lieu, ou que de très tard. Et même la seconde phase sont des opérations qui sont très statiques. Ce qu'il apparaît, si vous voulez, des opérations en Ukraine, c'est que vous aviez une armée russe qui s'était relativement modernisée, mais en pointe. Donc vous aviez, c'est d'ailleurs ce qu'on voyait, c'est pour ça qu'on l'a surestimé. C'est-à-dire que vous aviez quelques unités, notamment les troupes parachutistes, qui se comportaient très bien, qui avaient l'air de maîtriser vraiment les moyens high-tech de guerre réseau centré, de frappe en profondeur, etc. Mais là, si vous voulez, déjà, donc c'était limité, mais mis dans un plan qui n'a aucun sens, tout s'est grippé, et puis surtout, ils ont perdu très rapidement leurs meilleurs éléments. Et les pertes qu'ils ont eues dans cette première phase, en fait, ils les ont jamais compensées depuis. Et donc vous avez une perte de compétences, vous avez une perte de savoir dans un système qui est très vertical, qui a besoin justement de ces gens compétents pour le faire tourner. Donc vous voyez, c'est qu'un cercle vicieux de plus en plus dangereux en fait pour l'armée russe, qui n'arrive pas à reprendre le dessus, même vis-à-vis d'elle-même.
Mais alors du coup, est-ce que, de la même manière qu'il y a une théorie de la victoire russe, en tout cas de comment y arriver, est-ce qu'il y a une théorie de la défaite russe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... est-ce qu'ils ont pensé de... Comment on se sort d'une ornière comme ça, quoi ? Parce que c'est vraiment une ornière. Et il y a d'autres pensées stratégiques où il y a des plans de retrait, de minimisation des pertes, Enfin, je veux dire, la stratégie qui ne pense que la victoire totale n'est pas une très bonne stratégie. Donc il faut bien prévoir un éventail d'options. Et est-ce qu'il y a un éventail d'options qui est applicable à la situation tactique et stratégique et opérative dans laquelle se trouve la Russie en Ukraine en ce moment?
Alors en Ukraine, certainement pas. Moi, je pense vraiment qu'ils se sont perdus dans ce pays. Ils ne savent pas comment en sortir. Et le coup politique serait beaucoup trop fort, en fait, pour un retrait. Si vous voulez, il y avait un moment pour se retirer, c'était à la fin de la phase 1. Ils se sont entêtés, mais ils n'ont pas de théorie pour en sortir. C'est ça le gros problème, surtout. Si vous voulez, le problème qui vient très vite là-dedans, c'est l'élément nucléaire. C'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, c'était que la guerre allait de toute façon être limitée. Elle allait être de grande intensité, il allait y avoir beaucoup d'attrition, beaucoup de pertes, etc. Mais elle allait être rapidement limitée par l'activation de la dissuasion. Et justement, ce que les Russes, du coup, professent pour faire mentir l'équilibre de force et saisir les opportunités, c'est par contre l'agressivité. C'est-à-dire que les trois tenants, si vous voulez, de la pensée militaire russe sur comment utiliser ces unités, c'est mobilité, surprise, agressivité. Enfin, ce qu'ils appellent activnost, donc l'activité, c'est-à-dire une puissance qui n'est pas utilisée est une puissance inerte, donc ce n'est pas une puissance. Et ça explique notamment la défense active que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une défense qui serait purement statique, passive, en fait, n'a pas de sens, elle n'existe pas. La défense doit être active, elle doit pouvoir en fait lancer des contre-offensives, elle doit pouvoir se réarticuler, elle doit même pouvoir préempter l'adversaire. C'est-à-dire que, basiquement, comme ils imaginent être envahis par l'OTAN, d'être attaqués par des salves massives de missiles, de Tomahawk, etc., concrètement, les Russes, face à la salve adverse, ne pensent pas juste mettre en face leur système anti-aérien pour limiter cette salve, pour la dégrader. Non, ils estiment par exemple qu'il faut, dès le début des hostilités, dès que c'est identifié, lancer des contre-frappes sur justement les moyens de génération de la puissance adverse. Donc par exemple, c'est détruire les aéroports, c'est déjà viser les centres de commandement, c'est quelque chose de très agressif. Et donc cette agressivité limite en fait les possibilités d'imaginer la défaite. Vous êtes vraiment engagé jusqu'au bout, et de toute façon, l'élément nucléaire viendra clore le problème et les négociations arriveront. Le problème en Ukraine, c'est qu'ils n'estiment pas être dans une guerre, ils estiment être dans une opération spéciale, et parfois il faut vraiment les prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que pour eux, l'Ukraine, d'ailleurs, à mon avis, Poutine doit croire gagner en Ukraine pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont le potentiel économique et humain de la Russie qui va écraser un plus petit pays qui est l'Ukraine. Et là, vous avez un côté très irrationnel. Vous avez un mépris, vous avez même un certain racisme, on peut l'appeler comme ça, envers les Ukrainiens. Donc à partir de là, si vous voulez, toute la réflexion, tous les moyens de vraiment planifier des options B, elles sont corrompues, en fait. Il n'y a plus de fonctionnement vraiment fonctionnel. L'État... Aujourd'hui, de la pensée stratégique russe, quand même, quand on lit leurs publications, c'est le déni total. C'est-à-dire que pour les articles, l'activité académique continue en Russie, vous avez toujours les numéros qui sortent, vous n'avez pas de numéro qui dit « voici les rétextes en Ukraine ». C'est très indirect, et la plupart du temps, c'est circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe très bien dans le meilleur des mondes, notre modernisation continue, et oui, il y a une petite opération spéciale en Ukraine, c'est sympa. C'est vraiment, je caricature, mais c'est vraiment, il y a une déconnexion, si vous voulez.
Et en termes de personnel, donc il y a Poutine, on a cru comprendre que tout partait, tout terminait avec Poutine, mais il y a quand même autour un état-major. Alors il y a le maréchal Gerasimov, qui est le chef d'état-major de l'armée russe, qui est un personnage central, mais des fois il disparaît pour longtemps, donc on ne sait pas très bien s'il a été blessé, s'il n'a pas été blessé en Ukraine.
Parfois, plus si central en fait.
Ouais, c'est ça. Parfois, mais est-ce que ça pourrait être de la même manière que, je sais pas, que la guerre en Géorgie ou que la guerre en Syrie a pu être un moment de renouveau conceptuel, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les Russes se réadaptent, réintègrent ce truc-là et qu'il y ait une génération qui monte de penseurs stratégiques qui pensent les choses un peu différemment? Ou est-ce que, à votre avis, vont rester dans le déni pendant un certain temps et jusqu'à ce que...
Les deux problèmes que je vois, c'est que d'abord, donc l'ossature de l'armée russe, hein, vraiment, donc, comme on disait, la centralité du commandement, la centralité de l'officier. Beaucoup de gens l'ont dit, ils n'ont pas de sous-officier, c'est vraiment l'officier. C'est le commandement par un seul homme, c'est vraiment l'ossature. Et donc la pensée, c'est pareil. Le problème, c'est qu'en Ukraine, toute la nouvelle génération d'officiers, qui a plutôt grandi d'ailleurs dans les interventions en Syrie, post-Géorgie, donc en fait le cadre professionnel de l'armée russe, est en train d'être vraiment dilapidé en Ukraine. Le nombre d'auteurs d'articles assez bons que j'ai pu lire sont des auteurs qui maintenant sont morts. Je vois les noms passer, je vais ah, dommage. Mais ils perdent, si vous voulez, la nouvelle génération. Donc il va y avoir un problème de formation, de renouvellement en fait de leurs élites militaires. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est lié à la nature de la guerre en Ukraine, qui est considérée comme une guerre existentielle. C'est vraiment, pour eux, c'est le monde russe, et il faut se l'accaparer.
C'est intéressant, parce qu'il y a un décalage. C'est une opération spéciale, mais une opération spéciale existentielle.
C'est pour ça que je pense qu'il y a eu une vraie déconnexion entre les objectifs politiques, définis avec leur dose de fantasme, hein, recréer le monde russe, etc., mais liés sans aucune mesure avec la réalité militaire de la situation et les moyens qu'ils auraient dû vraiment amener pour les réussir. Et donc le deuxième problème, c'est la nature existentielle de la guerre en Ukraine et l'instabilité politique qu'elle va générer. Et pour l'instant, rien ne montre que les forces russes sont capables de renverser l'équilibre des forces en Ukraine. C'est plutôt l'inverse. Le grand problème là qui va se poser, par exemple, c'est la déclaration de guerre ou pas. Parce que c'est déjà très impressionnant de résilience. L'armée russe a perdu énormément d'hommes, hein, on parle de plus de 20 000 pertes dures. Mais elle a réussi à compenser ses pertes avec la formation d'unités de volontaires. Le problème, c'est que ces unités de volontaires sont mal formées, donc la qualité n'augmente pas des troupes. Et puis, surtout, c'est des petits contrats, c'est 3 à 6 mois. Donc le problème, en fait, n'est pas résolu, le manque d'hommes n'est pas résolu, il est juste décalé. Donc là, très rapidement, et surtout que les offensives ukrainiennes ont l'air de porter leurs fruits, très rapidement, on va se poser la question du passage à l'état de guerre. C'est que par l'état de guerre qu'ils vont pouvoir déployer plus de ressources et qu'éventuellement, ils pourraient renverser la vapeur. Le problème, c'est que là, les coups politiques sont complètement... c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ne l'ont toujours pas déclaré. C'est qu'ils sont... à mon avis, la population en russe n'en voudra pas. Donc là, le deuxième problème que j'ai mis du temps à essayer d'expliquer, c'est l'instabilité politique. Quand vous avez, par exemple, la guerre en Tchétchénie, vous avez toute une expérience qui a été perdue, parce que concrètement, il n'y avait pas la traction politique n'était pas là. Quand vous n'avez pas cette continuité, justement, politico-militaire, le savoir est perdu. Et c'est pour ça que je vous parlais de la chute de l'ancienne Rome. C'est vraiment la redécouverte des textes des années 80 qui a mené leur modernisation. Et on pourrait, donc, avec une instabilité politique trop grande, qu'on ne peut vraiment pas écarter. On ne peut pas compter dans l'analyse, on ne peut pas prendre en compte la survie ou pas du régime de Poutine. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il tombe demain, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, etc. Mais du coup, pour répondre à votre question, le problème, c'est que la réponse, elle dépend de cet état, de cette stabilité politique. Donc voilà, quelque part, je ne peux pas répondre à cette question, mais il y a du coup pas mal de contraintes qui jouent dessus.
Merci beaucoup, Vincent Touret.
Merci à vous.
Donc je vais rappeler qu'on peut lire toutes sortes de choses de vous sur le site de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Puis évidemment, alors il faudra attendre un peu, mais il y a une thèse à la clé sur la pensée stratégique russe que les auditeurs intéressés pourront lire un jour ou l'autre. Mais d'une année à l'autre. Mais dans tous les cas, ils peuvent vous suivre, notamment sur Twitter, et lire ce que vous produisez, donc même sous une forme un peu plus éphémère et un peu plus de court terme. Merci beaucoup. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques, commentaires, notes et appréciations sont bienvenues, notamment sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. C'est toujours intéressant d'avoir un retour. Ça aide aussi à la diffusion du podcast, à le fait qu'il y a toujours plus de gens qui nous rejoignent et qui écoutent le podcast. Tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, parce que c'est encore par le bouche à oreille que l'audience augmente le plus. Donc si vous pensez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut être intéressé par les différents formats de l'émission, n'hésitez pas à en parler et à la recommander. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.